C'est le journal avec Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, un accord qui fait grincer des dents. Celui conclu à Osaka entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, appartenant au Mercosur. Accord qui pourrait permettre l'importation de bœuf sud-américain en Europe, ce qui provoque la colère des agriculteurs et suscite l'inquiétude des mouvements écologistes. Un rendez-vous historique, celui de Donald Trump et du Nord-Coréen Kim Jong-un. À la frontière entre les deux Corées, les deux hommes doivent se rencontrer pour une poignée de main dans les minutes qui viennent. À suivre, la canicule et ses conséquences, plus de 500 hectares de végétation brûlés dans le Gard, 550 pompiers mobilisés, parmi lesquels 19 légèrement blessés. Un rafraîchissement des températures est attendu par le Nord-Ouest. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard, avec au sommaire la victoire surprise des Suédoises sur l'Allemagne hier soir en quart de finale de la Coupe du Monde. Des Suédoises qui affronteront maintenant les Pays-Bas en demi-finale. Enfin, à 8h20, sur la question de cinéma, en compagnie de votre invitée Amélie Perrier.
Oui, ce sera la réalisatrice Monia Chokri. Elle réalise un film drôle, sensible, avec un fort accent québécois. La femme de mon frère, Monia Chokri, sera là dans 20 minutes.
France Inter. C'est donc hier que s'est refermé à Osaka, au Japon, le sommet du G20, sommet marqué par la rencontre de l'américain Trump et du chinois Xi Jinping sur les relations commerciales entre les deux pays, par la conclusion d'un accord aussi sur le climat entre 19 des 20 participants, enfin par cet accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un accord historique après 20 ans de discussions entre l'Union européenne d'un côté, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay de l'autre. Accord qui a pour but de favoriser les échanges commerciaux entre les deux parties, à commencer par des importations de viande en provenance de ces pays sud-américains. Et c'est là que le bât blesse, suscitant la colère des agriculteurs et des écologistes, qui rappellent que les normes environnementales et sanitaires ne sont pas du tout les mêmes entre ces deux blocs et dénoncent parallèlement le non-respect des normes environnementales brésiliennes pour la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement. Je vous propose d'écouter la réaction de Cécile Lebas, chargée de campagne pour les forêts au sein de l'ONG Greenpeace. Elle répond aux questions de Célia Kiri.
L'un des principaux risques de la signature de cet accord de libre-échange, c'est l'augmentation de la déforestation en Amérique latine, en particulier au Brésil et en Argentine, et en particulier sur des écosystèmes précieux comme l'Amazonie, comme le Grand Chaco ou comme le Cerrado, parce qu'on sait très bien que ces écosystèmes sont avant tout détruits pour produire du soja qu'on importe ensuite en France et en Europe pour nourrir nos animaux d'élevage, et sont aussi détruits pour produire du bœuf qui pourrait du coup être exporté vers l'Union européenne, parce que l'objectif de cet accord de libre-échange, ou un des objectifs de cet accord de libre-échange, c'est de doper les exportations de bœuf, alors que nous, en France et en Europe, on consomme déjà trop de viande et de produits laitiers, donc c'est vraiment un non-sens écologique. C'est un exemple de plus de l'hypocrisie du gouvernement en matière de changement climatique.
Un accord qui doit cependant encore être ratifié par le Parlement européen. À l'issue de ce G20, Donald Trump a pris la direction de la Corée du Sud, où il se trouve en ce moment. Il devrait ensuite, dans les minutes qui viennent d'ailleurs, se rendre à la frontière dans la zone démilitarisée, où il doit rencontrer, pour une poignée de main symbolique, son homologue de la Corée du Nord. Nous y reviendrons dans le journal de 9h.
Retour en France, Serge Martin, où la canicule et les incendies du Gard continuent de retenir l'attention des pouvoirs publics.
Le Gard, où plus de 60 départs de feu ont été enregistrés ces dernières heures, mobilisant tous les services de secours. Le point sur la situation ce matin avec Julie Munch de France Bleu Gard-Lozère.
Jusqu'à présent, plus de 550 hectares de végétation ont brûlé dans tout le département du Gard et notamment à Saint-Gilles. C'est la commune la plus touchée avec 250 hectares brûlés et un lotissement atteint. En tout, 284 personnes ont été évacuées, 6 maisons ont brûlé ainsi que 5 hangars agricoles. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être ce chiffre, 31 départs de feu en même temps au plus fort des incendies. En plus de la chaleur et du vent, ça a rendu les interventions des pompiers très difficiles. Il était impossible, par exemple, de concentrer beaucoup de moyens sur un seul incendie. Mais le pire a été évité, selon le préfet du Gard, Didier Loga. Sur les 550 pompiers mobilisés depuis vendredi, 19 d'entre eux sont légèrement blessés. Un habitant de Vauvert a lui aussi été légèrement brûlé, mais ses jours ne sont pas en danger.
Julie Munch a noté que 5 gendarmes ont été légèrement blessés dans le Gard. Quant à la canicule, les effets vont s'estomper au fil des heures à venir. Et premier signe, il ne reste plus ce matin que 32 départements vigilance orange, canicule contre 75 hier soir.
8h05 sur France Inter. La politique avec une tentative de reprise en main de la gauche au sein du parti La France Insoumise.
Une gauche éparpillée depuis 2017 et totalement atomisée par le résultat des dernières européennes. Une gauche qui n'entend pas pour autant se laisser enterrer. Plusieurs initiatives sont prévues dans les jours qui viennent, à commencer par une mobilisation ce dimanche de la députée France Insoumise Clémentine Autain et de sa collègue communiste Elsa Faucillon sous un chapiteau du cirque Romanès à Paris. Laurence Perron.
On est au soir de l'élection européenne. Sur un plateau de télévision, Clémentine Autain glace Jean-Luc Mélenchon.
Il faut sans doute un profil plus rassembleur que clivant, un profil qui permette de faire vivre le pluralisme pour faire une force à vocation majoritaire, parce que l'heure est grave, sans doute. Merci. Est-il minuit moins deux ? Et donc oui, il faut se mettre au travail.
Il est minuit moins deux, l'urgence nous oblige. C'est désormais le slogan du mouvement Big Bang que lance officiellement la députée de la France Insoumise, qui depuis près d'un an conteste la stratégie populiste et cavalier seul de son mouvement. En réunissant sous le même chapiteau Olivier Besancenot, la communiste Elsa Faucillon, le hamoniste Guillaume Ballas ou encore le patron de la CGT, Philippe Martinez, pas exactement en très bons termes avec Jean-Luc Mélenchon, clairement, elle jette du sel sur les plaies encore béantes de la France Insoumise, suite aux européennes.
Il y a une urgence absolue. On ne peut pas se dire que dans notre pays, le paysage politique se fige entre d'un côté le pouvoir en place et de l'autre côté des néo-fachos.
Alors, est-ce une rampe de lancement pour 2022 ? Oui, Clémentine Autain n'en fait pas mystère. Pour elle, il est trop tôt pour le dire, mais elle annoncera aujourd'hui de nouveaux rendez-vous pour faire sortir une nouvelle gauche du Big Bang.
Et pour apporter la contradiction à Clémentine Autain, une quarantaine d'élus et membres de la France Insoumise signent ce matin une tribune sur le site internet du Journal du Dimanche, tribune dans laquelle la jeune garde mélenchoniste appelle à resserrer les rangs, déclarant c'est en consacrant notre énergie à la société plutôt qu'à nos affaires internes que l'on parle du pays. Fin de citation. À noter enfin un nouveau candidat à la succession de Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Il s'agit du député du Vaucluse, Julien Aubert.
À l'étranger, Serge Martin, les attentats de jeudi dernier en Tunisie ne semblent pas avoir fragilisé le démarrage de la saison touristique.
Non, aucune annulation de masse n'a en effet été enregistrée. L'année 2019 pourrait même être une année record, avec plus de 8 millions de visiteurs attendus en Tunisie, où le tourisme pèse 14% du PIB. Reportage de notre envoyé spécial Benjamin Elie à Mamet, l'une des stations balnéaires emblématiques du pays.
Nous arrivons dans un hôtel 5 étoiles, hôtel La Badira.
Les sacs sur le flux ?
Fouille minutieuse. On vide ses poches, un portique à l'entrée, détecteur de métaux.
Soyez les bienvenus à La Badira.
Plage de l'hôtel, les transats, tout va bien ?
Ouais, très vrai. On est là pour un week-end pour fuir un petit peu le stress de Paris.
Au lendemain des attentats.
C'est ça, exactement. On s'est posé la question à savoir si on devait ou pas annuler. Mais on s'est dit, bon, c'est malheureusement des choses aujourd'hui qui arrivent même à Paris. Donc on a pris le risque, mais c'est un risque mesuré.
Bonjour.
Mouna Ben Halima,
la propriétaire de l'hôtel La Badira.
Donc il y a eu ces attentats jeudi à Tunis. Est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de votre établissement ?
Nous avons eu 4 mails d'annulation le jour même. Suite à ça, sur les 4 mails, il y a 3 qui sont revenus le lendemain pour dire on maintient nos réservations. Rabbi wafaq betaoufiq. Betaoufiq, c'est la réussite en fait de la saison.
Vous voulez dire ça ?
Et c'est très important que l'économie marche pour pouvoir convaincre la population un peu désenchantée, qu'il y a réellement un meilleur avenir avec la démocratie. Voilà, Betaoufik.
Betaoufik, je tiens.
Bon élève.
À Mamet, Jérémy Tulle, Benjamin Ili, France Inter.
Un bruit d'eau qui fait du bien par les températures qui courent, un bruit de mer qui évoque les vacances en tout cas. Alors justement, ce dimanche s'annonce encore chargé sur les routes de France. L'occasion pour la prévention routière d'appeler une extrême vigilance, notamment sur le territoire de Belfort où 6 morts ont été comptabilisés depuis le début de l'année, contre 0 l'an dernier à la même période. Des tués que le directeur de la prévention routière du département, Yves Lamballeau, joint au téléphone par Jonathan Landais, mais sur le compte du comportement des usagers de la route.
90% de l'accidentologie mortelle est dû au comportement qui ne va pas. Par exemple, c'est de ne pas respecter un signal, en tous les cas un feu rouge, de dire ben tant pis, ben je vais le passer. Un comportement d'une personne qui choisit de rouler en répondant à un appel téléphonique, une personne qui va passer un passage pour piéton alors que le petit bonhomme est au rouge. Voilà, ce sont des comportements qui ne vont pas. Il faut bien comprendre que l'importance de son comportement, il est capital.
En tout cas, bonne route si vous nous écoutez en ce moment dans votre voiture. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Amélie Perrier.
Merci beaucoup Serge Martin. Et vous passez le relais au Journal des Sports. C'est vous, Laetitia Bernard, qui prenez la main. Bonjour.
Bonjour.
Pays-Bas-Suède, voilà l'affiche de la deuxième demi-finale du Mondial féminin de football.
Et les joueuses des Pays-Bas championnes d'Europe en titre ont éliminé l'Italie hier après-midi 2-0 à Valenciennes. Puis à Rennes, la Suède a réussi à tirer son épingle du jeu 2-1 face à la redoutable équipe d'Allemagne, championne olympique en titre. Les Suédoises en demi-finale du Mondial, une surprise pour certains observateurs, mais pas pour leur entraîneur Peter Gerhardsson.
Nous savions bien sûr que nous avions nos chances, absolument. Nous devions hausser notre niveau de jeu pour battre l'Allemagne. Et comme je l'ai dit auparavant, contre l'Allemagne, nous avons réussi à les perturber auparavant. Mais elle nous avait surpassé sur le plan de l'offensive. Alors que je n'étais pas vraiment surpris. Je savais que nous devions jouer et être au top, aussi bien en attaque qu'en défense. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. C'est très agréable.
Alors la Suède contre les Pays-Bas, rendez-vous pour la demi-finale à Lyon mercredi. Et la première demi-finale, on le savait, elle opposera l'Angleterre aux États-Unis dès mardi soir, toujours à Lyon. Les États-Unis, un tombeur, faut-il le rappeler, de l'équipe de France. Et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, hier a renouvelé sa confiance à Corinne Diacre. Prochain objectif pour la sélectionneuse et ses joueuses, l'Euro 2021.
Toujours en football, Laetitia, la Copa América, on connaît les affiches des demi-finales.
L'Argentine contre le Brésil d'un côté et le Chili contre le Pérou de l'autre, puisque le Pérou a éliminé l'Uruguay au tir au but 5-4 en profitant d'un loupé de la star Luis Suarez. Quant à la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun tenant du titre a fait match nul 0-0 face au Ghana hier, mais reste en tête de son groupe.
On passe au cyclisme à moins d'une semaine du départ du Tour de France. Le championnat de France sur route se termine aujourd'hui avec la course en ligne masculine.
252 km quand même à parcourir près de Nantes. Alors qui sera sacré cette année et le vainqueur pourra-t-il arborer son maillot bleu-blanc-rouge sur les routes de la Grande Boucle? Pas sûr, car même si le championnat de France est obligatoire depuis cette année, beaucoup de coureurs, et non des moindres, ont choisi de faire l'impasse. Fanny Lechevestrier.
À commencer par deux des figures de proue du cyclisme tricolore, Julien Alaphilippe et Romain Bardet. Le leader de l'équipe AG2R, la mondiale, a préféré faire l'impasse à 6 jours du début du tour, explique son manager Vincent Lavenu.
Il est actuellement en altitude. Le circuit, lui, le jugeait un petit peu dangereux et de participer à championnat de France, ça lui fait prendre des risques en vue du Tour de France, qui était l'objectif majeur, pour respecter la volonté de Romain.
Thibaut Pinot, qui rêve également de jauner d'éclat sur le tour, sera lui en revanche bien présent.
Pour moi, ça a toujours été un maillot qui m'a fait rêver. C'est un objectif de ma carrière d'un jour d'être champion de France.
Normal pour Marc Madio, son manager chez Groupama FDJ, mais aussi président de la Ligue nationale de cyclisme. Un maillot national ne se galvaude pas.
Il y a un monsieur qui s'appelle Richard Marié. C'était mon DTN qui m'a sélectionné pour la première fois en équipe de France quand j'étais junior. On était en stage dans le Vercors. Il m'a dit poser les vélos dans l'herbe. Pendant une heure, il nous a fait un cours sur la résistance dans le Vercors. Ce jour-là, j'ai pris une grande leçon. Le maillot et le drapeau, c'est sacré. Et dans le vélo, on a la chance d'avoir ce maillot sur le dos pendant un an. Quand vous l'enfilez pour la première fois, ce maillot, ça vous transforme. Vous êtes quelqu'un d'autre.
Dès l'an prochain, la Fédération française de cyclisme promet de sanctionner les absents, quel que soit leur statut. À la Foissière, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et je vous rappelle que la course en ligne féminine hier a été remportée par Jade Viel, 19 ans. Aude Bianic, la championne sortante, elle a pris la médaille de bronze. La pole position pour le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche aujourd'hui. À ses côtés, en première ligne, Max Verstappen, Lewis Hamilton, le leader du championnat du monde des pilotes, est quatrième sur la grille de départ. Chez les Français, déception pour Pierre Gasly, 8e, Romain Grosjean, 11e. Lui continue de faire sensation. Encore une pole position pour le jeune Fabio Quartararo au Grand Prix moto des Pays-Bas. Départ de la course à 14h, alors que le Niçois de 20 ans débute cette année en MotoGP. C'est sa 3e pole position de la saison. Il lui reste donc maintenant à remporter sa première course dans la catégorie reine.
Oui, on lui souhaite. Ils font leur premier mouvement de crawl en ce moment même dans le bassin de la Villette à Paris, Laetitia.
C'est le départ du triathlon de Paris avec un record d'affluence, 4800 concurrents. Après la natation, il faudra monter sur le vélo et puis enfiler les baskets pour la course à pied. 4800 courageux donc aujourd'hui, alors que pour la première édition de cet événement en 1987, on comptait quelques 600 participants. Une progression qui reflète le développement de cette discipline, toujours de plus en plus prisée. Édouard Cassignol, le directeur des épreuves grand public chez Amaury Sport Organisation.
Dans l'analyse des profils des nouveaux triathlètes, près de la moitié ou un peu plus de la moitié d'entre eux sont issus de la course à pied. Il y a un aspect ludique de passer effectivement de la natation au vélo à la course à pied. Donc c'est l'enchaînement de ces trois sports qui demandent des qualités d'ailleurs différentes qui, je pense, séduit sur un nombre total de concurrents qui avoisine les 5000. 50% d'entre eux vont découvrir ou vont faire leur premier triathlon sur notre épreuve.
Des propos recueillis par Cécilia Arbonnat, il est 8h15. Sur France Inter.
C'était le journal des sports de Laetitia Bernard. Merci Laetitia. On passe au temps de ce dimanche.
La météo avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Jean-Michel Golinski, vous nous dites que ça reste caniculaire dans l'est du pays.
Les fortes chaleurs de 36 à 39 degrés vont persister aujourd'hui sur les régions de l'Est, en particulier près de l'Allemagne, de la Suisse, sur l'Auvergne et de l'Est du Rhône au bassin méditerranéen, avec à la clé une trentaine de départements maintenus en vigilance orange canicule. En matinée, c'est souvent le bleu qui va dominer, mais cet après-midi, risque d'orages, en particulier en montagne, des orages souvent plus puissants en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus à l'ouest, c'est de l'air plus frais qui va progressivement gagner le nord de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et le Midi-Pyrénées, avec cet après-midi des valeurs maximales en baisse de 5 à 8 degrés par rapport à hier. Cet air plus frais s'accompagne d'un ciel plus mitigé que ces derniers jours, avec par moments une ondée, voire même un coup de tonnerre possible. Et puis ce matin, les entrées maritimes sont assez compactes dans le quart sud-ouest.